Bonsoir, merci d'être venu accueillir avec nous Philippe Bordas, qui va nous parler ce soir donc, de son premier et dernier ouvrage « Chant furieux », publié aux éditions de Gallimard. Donc, Philippe Bordas, vous avez une énorme activité derrière vous, vous êtes photographe, vous avez été chroniqueur sportif, vous avez parcouru l'Afrique pendant des dizaines, même plus d'une dizaine d'années, je pense.
Oui.
Aujourd'hui, vous venez donc avec un livre, avec une figure assez emblématique du football, avec Zidane. Alors déjà, comment on passe de votre passé de photographe en Afrique et de chroniqueur, puisque vous chroniquez surtout sur le vélo, à un livre sur le football et sur Zidane en particulier.
Bonsoir à vous tous, merci d'être venus. En fait, le cyclisme était pour moi une passion d'enfance, donc c'était établi dans mon cœur et dans mon sang. Ça n'a jamais été une décision, une demande qu'on m'aurait faite pour en parler. Ce qui s'est passé, c'est que Zidane, j'ai toujours détesté le football. Ça ne m'a jamais intéressé. Je m'intéressais uniquement au sport noble, entre guillemets, qui demande un investissement personnel presque surhumain, comme le cyclisme ou la boxe. Et puis, le livre, comme toujours, pas forcément une décision de fiction ou de construire un texte complètement abstrait. C'est un ami qui est devenu aveugle, qui un jour m'a demandé expressément de lui raconter tout ce que je savais de Zidane. Et comme j'avais suivi Zidane, un jour, on m'a demandé de faire des photos de lui. Moi, je me fichais un peu de cette expérience. Mais pour mon ami aveugle, qui était quasiment amoureux de Zidane, il m'a demandé de lui raconter l'expérience que j'avais faite de Zidane, mais surtout de lui faire voir le visage et le jeu de Zidane. Donc, je me serais bien passé, d'avoir l'air... à la suite d'avoir été un chroniqueur sportif, de continuer à écrire sur le sport. S'il m'avait demandé de faire un portrait d'un écrivain que j'aurais pu avoir connu, je l'aurais fait. Il s'est trouvé que c'était Zidane et que d'un seul coup, j'écrivais pour la deuxième fois sur des héros sportifs. C'est vraiment un hasard, en fait.
Et justement, pour parler un petit peu du sujet du livre, quelle est cette expérience que vous avez eue avec Zidane?
Bon, le sujet, déjà, après on va en reparler, mais le sujet du livre, il est inclus dans le titre. Le titre, c'est « Chant furieux », donc c'est un titre qui mélange la question de la mélodie et de la rage. Le sujet du livre, c'est en dernier lieu et en premier lieu la langue française. Et le sujet adjacent, visible, qui agit comme un épouvantail sur le champ de blé, c'est un peu Zidane. Mais votre question c'était Zidane, c'est pas directement le sujet quoi.
Non, bien évidemment. Mais quel est votre rapport avec Zidane? Enfin, qu'est-ce que vous avez
vécu? Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'avais beaucoup vécu en Afrique et fait des livres qu'on jugeait artistiques, mais dans des conditions extrêmement dures, dans des bidonvilles. Et un jour, avant la fin de sa carrière, Zidane, en 2006, décide. Pour durer, pour établir un mémorial qui le fasse dépasser la petite mémoire journalistique qui échoit généralement aux sportifs et qui sont oubliés au bout de 10 ans, Zidane décide de faire un livre énorme, de donner tout son temps pour que soit fait un livre énorme sur lui, sur les 100 derniers jours de sa carrière. Et un jour, on m'appelle en me disant « il faut que tu restes avec Zidane pendant 5 jours jusqu'au jour de la finale de la Coupe du Monde 2006 ». Et moi, je ne connaissais rien au foot. Et ce qui est assez drôle, c'est que je me retrouve à côtoyer avec une indifférence presque totale quelqu'un qui est adulé par tous les fans. J'essaye juste de faire des belles photos. Et puis, on sympathise. Je deviens finalement complètement amoureux de Zidane et du football parce que lui, qui est blessé, qui n'avance pas, qui n'a plus aucune force physique ni mentale, à un moment... comme on vient tous les deux des cités, on finit par se tutoyer. Et puis, 3 mois avant la Coupe du Monde, même un peu moins, je lui dis « mais t'avances pas, vous allez faire comment ?» D'ailleurs, j'étais persuadé qu'il n'avait aucune chance. Et lui, avec son accent de Marseille, il me dit « je serai en finale ». Et donc, je me suis dit « c'est quoi ce milieu ?» Non seulement je me fiche du foot, et le mec est mégalo, voire mythomane, dans quoi je suis parti. Et donc, j'ai continué les photos, je l'ai suivi. Et puis, de jour en jour, il faisait exactement ce qu'il avait dit. Et moi, ça m'a complètement saisi. Et puis, je me suis accroché et j'ai senti que je vivais non pas un événement historique, mais un événement humain très impressionnant. Parce que décider d'arriver en finale à 33 ans, le décider tout seul chez soi et réussir à envoûter tous les joueurs et opérer, comme l'a fait Zidane à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, opérer une suite de tous ses meilleurs gestes, de tous ses meilleurs matchs qu'il a réussi à concentrer en très peu de temps. Sa mort sportive arrivant, il a réussi à quasiment faire un musée vivant de ses meilleurs gestes, et j'étais là. Et très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une identification. C'est que j'ai compris quelque chose chez Zidane qui avait rapport avec ma vie d'écrivain. C'est-à-dire que quand on est à une passion, on peut juste décider d'assouvir sa passion de la manière commune. Zidane, quand il est arrivé dans la carrière footballistique, il aurait pu, vu qu'il est un très grand gabarit, juste décider d'être très physique, comme c'était le cas dans le jeu italien et allemand à l'époque, et ne pas devenir ce qu'il a décidé d'être de façon arbitraire et totale. À 18 ans, il a décidé de devenir un danseur, il a décidé de devenir un artiste. Alors que c'était quelque chose de totalement révolu dans l'art footballistique, c'est-à-dire que la période des Maradona, des petits gabarits qui étaient des jongleurs et qui étaient tout petits, la période des Platini qui étaient aussi comment dire, des grands stylistes, mais qui n'avaient pas de physique, au sens où ils mesuraient 1,77 m et où ils n'avaient aucune musculature pour perforer les défenses. Zidane, lui, il décide, à contretemps historique, de devenir un styliste. Et quelque part, évidemment, quand on est écrivain et qu'on arrive dans une époque où c'est le jeu physique un peu facile et évident, de l'exercice de la simplicité puissante, d'aller toujours vers l'évidence et vers le but, d'un seul coup, ce que Zidane a voulu éviter dans sa carrière, à savoir se contenter juste de gagner sa vie et de raconter, de faire de beaux gestes, comme on peut décider de faire de belles histoires quand on est écrivain. Moi, ça m'intéressait de devenir écrivain uniquement pour pouvoir exercer un art et essayer d'approcher, non pas l'invention d'un style, mais l'exercice d'un style un peu neuf. Et évidemment, je me suis identifié à Zidane. Parce que décider aujourd'hui de devenir écrivain et ne pas écrire comme 99% des écrivains, c'est quasiment une condamnation à mort. Il y a une langue globale que vous connaissez à peu près tous, parce qu'on aime la lire quand on a envie de se faire plaisir, mais qui est très proche de la langue journalistique, ou de la langue télévisuelle, ou de la langue des téléfilms, ou de la langue des séries, qu'on retrouve dans les livres de plus en plus, qui eux-mêmes se présentent parfois avec des suites et des numérotations comme des séries. Donc il y a un moment, soit quand on est seul face à son destin, qu'on soit écrivain ou footballeur, qu'est-ce qu'on fait de son talent? Soit on rentre dans la norme, et tout de suite pour gagner de l'argent facilement, et Zidane, il n'avait aucun problème à faire ça, et Zidane a décidé un truc exceptionnel, il a décidé de devenir un danseur, et il a fait un travail considérable, il a beaucoup plus travaillé que tous les footballeurs de sa génération. Donc déjà, ce personnage-là a une dimension, pour moi, poétique et artistique.
Alors justement, donc vous disiez, donc vous n'aimiez pas le foot. Zidane, c'était pas pour vous une figure importante. Comment vous qui étiez photographe, mais pas forcément sur le foot, comment vous en êtes, enfin, pourquoi on vous a proposé à vous ce projet?
Bon, parce que Zidane n'a aucun temps. Alors Zidane, ça fait partie des paradoxes du vedettariat moderne. Zidane exige un livre exceptionnel avec des photos exceptionnelles, mais ne va rien faire pour qu'on réussisse ces photos exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout comme dans les années 50 où on va aller en studio pendant 6 jours et amener les éclairagistes et puis tout bien préparer. Zidane, j'ai passé mon temps à l'attendre. J'ai parfois fait Paris-Madrid pour une séance photo de 20 minutes que j'avais médité au maximum pour pouvoir faire des belles photos. Et les belles photos, je ne pouvais les faire que dans ces lieux de vie. Mais Zidane, il ne faut pas imaginer qu'il vit dans un palais ou dans un hôtel de luxe. Zidane, il vit tout le temps dans des endroits absolument immondes, qui sont des parkings de souterrains, les souterrains des télévisions, les souterrains ou les parkings des stades. J'ai passé mon temps à devoir faire des photos d'art en noir et blanc avec des lumières ultra sophistiquées dans des endroits qui étaient des endroits absolument vilains et où j'ai essayé, parfois réussi, de le rendre beau. Mais comme j'avais fait ça en Afrique, dans des trous à rats, dans des bidonvilles, Les éditeurs se disaient, bon, bah, pour faire des photos d'art dans des lumières de chiottes, il n'y a que Bordas. Et donc, j'ai récupéré le boulot parce que j'étais une sorte de taupe, en fait, que j'arrivais à faire des images potables dans des conditions où personne ne peut travailler. C'est-à-dire qu'en arrivant dans un ascenseur avec une ampoule de 25 watts, moi, j'arrive encore à travailler parce que je l'ai appris comme ça. Et ça correspondait à ce que Zidane voulait bien me laisser comme possibilité.
Et est-ce que c'est pas difficile, enfin compliqué de choisir, enfin d'être, de prendre des photographies de quelqu'un ou d'un sujet qui ne nous passionne pas tant que ça à la base?
Non, ben là, en fait, ce qui s'est passé avec Zidane, c'est que très vite, dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il n'était pas comme les autres, parce que j'ai la chance d'arriver au Real de Madrid, qui est quand même le plus grand club du monde. Et au moment où j'attends Zidane, ça passe. J'ai attendu des jours et des jours avant de le voir, hein, c'était infernal. Mais je l'ai vu sortir du vestiaire pour la première fois. Et avant qu'il sorte, lui, tous les plus grands joueurs, Beckham, Ronaldo, sont sortis. Et ils avaient une façon de se tenir qui ressemblait à peu près à celle de mes potes sortant d'un club dans les cités. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement avachis, les mains dans les poches, ils n'avaient aucun style. Et quand Zidane est arrivé, j'ai vu un garçon absolument princier, altier, qui avait une très grande prestance et qui, dès qu'on a parlé, avait une mesure, une dignité, une sorte d'aristocratie dans la parole, une parole très mesurée et très pudique. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que au bout de 5-6 jours, j'ai compris que ce n'était pas avec Zidane que je travaillais, c'était avec Zidane plus une bande où il y avait ses frères et ses copains des cités de Marseille à qui payer les billets. Et du coup, je me suis retrouvé sans le vouloir dans un petit groupe qui ressemblait furieusement au petit groupe de mon enfance dans les cités, où tout le monde se tutoie et se moque, et on s'est tutoyé très vite. Et à un moment, je n'avais pas l'impression de photographier une star, on se parlait normalement. Donc ça a été très étrange pour moi, c'est que moi, ça m'a fait une bulle de mélancolie et de nostalgie qui m'a rapproché de mon enfance. Et c'est aussi ça le sujet du livre, c'est que quand j'ai commencé à l'écrire, l'aveugle, il veut juste que je lui parle de Zidane. Donc je me dis, je vais lui faire une description très précise de Zidane, mais dès que j'ai commencé à parler de Zidane, par rapport à ce que j'avais vécu, il y a mon enfance qui est revenue, et avec mon enfance, la langue de mon enfance. Donc c'est ça le sujet du livre, Chant furieux, c'est que je n'ai pas pu parler de Zidane de manière, monocorde et trop simple. Il y a plusieurs langages qui se sont mélangés.
Alors justement, en parlant de langage, on en reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais alors, donc vous écrivez un livre avec pour personnage principal Zidane, et aussi avec comme décorum des gens qui viennent de la cité. Et pourtant, donc votre écriture est très soutenue, si on peut dire ça comme ça. À qui vous imaginiez adresser ce livre? Est-ce que, d'après vous, il peut être lu par n'importe qui, ou... Est-ce que vous imaginez...
Je ne me pose pas ce genre de questions parce que j'ai parlé de Zidane tout à l'heure qui, à 17 ans, décide de devenir un danseur. Quand il arrive devant le but, il arrive parfois à 15 mètres et contrairement à 95% des joueurs, il ne va pas directement vers le but. Il fait des arabesques, il revient en arrière, il fait des choses parce qu'il y a un plaisir à tenir le ballon qui, chez lui, excède toute efficacité directe. Donc il y a aussi un moment où moi, j'écris un livre et j'ai décidé de faire quelque chose qui me semble être strictement rythmique et musical. Et au moment où vous écrivez, vous suivez la mesure, vous suivez le tempo. Et à ce moment-là, vous ne pensez absolument pas à écrire pour quelqu'un. Si vous le faites, vous êtes mort. C'est-à-dire qu'après, vous choisissez votre public. Ça, je peux le faire. Hein. Je suis un très bon imitateur. Donc, je peux écrire un roman pour les femmes de 54 ans qui vivraient vers Poitiers. Je peux écrire un roman strictement pour les universitaires qui auront un problème de rage de dent sur Paris-Sorbonne. Je peux tout faire. Mais après, c'est un choix que vous faites. Il faut être honnête dans sa rythmique. Donc après, le bouquin, c'est vrai que ce n'est pas mes potes des cités qui vont le lire facilement. Alors, c'est un hybride, c'est-à-dire que les mecs, mes copains des cités vont me dire « Ouais, mais on comprend certains mots, mais le reste, là, je ne comprends rien du tout. » Et puis, c'est vrai que les gens de la Sorbonne ou les gens qui ont la langue supérieure en eux, il y a certains mots en verlan qu'ils ne comprennent pas. Mais la plupart du temps, ils comprennent. Donc, je dois reconnaître que mon livre, il s'adresse plutôt aux gens lettrés, avec une forte mélancolie, pour les gens qui sont les gens qui parlent le moins bien, parce que c'est aussi ma vie. Mais quelque part, Céline et Rabelais ont eu un public parfois extrêmement lettré. Et les gens qui sont vraiment du peuple, ils préfèrent lire Alphonse Boudard que Céline. C'est-à-dire qu'Alphonse Boudard, il écrit une langue populaire naturaliste, exactement imité de l'oral, alors que Céline, il fait une transposition stylisée. Et en fait, les derniers livres de Céline ont été très peu lus. Et voilà, on peut demander à Céline pourquoi il n'a pas pu toucher le grand public. Et Rabelais, ça a été un fiasco. Il a eu du succès. Je parle de ces écrivains-là, je ne me réclame pas d'eux. C'est juste des personnes qui ont essayé d'allier le haut et le bas, qui ont essayé de faire des œuvres où la langue orale, la langue populaire, était remixée, pour employer un mot moderne un peu barbare, avec la haute langue. Donc ça, c'est un propos qui est assez politique, où on décide de rétablir une concorde sociale et politique entre des classes sociales qui sont disjointes. Donc ça, c'est très important dans mon livre. Il y a un espoir politique d'amour et de fusion qui est totalement utopique et délirant. Je le conçois. Mais il y a un échec à l'œuvre dans cette utopie politique que je revendique et qui est vital, parce que ce rêve-là, d'une concorde nationale entre les gens du haut et du bas, ça a été depuis toujours la grandeur de la France. La grandeur de la France, c'est quoi? C'est, selon moi, un peuple ultra-puissant, vindicatif, qui a montré sa puissance et sa grandeur à plein de moments. C'est un principe aristocratique. Je ne parle pas de l'aristocratie des gens à perruque et des privilèges. La France, c'est la jonction d'un peuple assez frénétique et sauvage et d'un principe aristocratique. Et au milieu de tout ça, il y a un lien absolu et sanguin entre les deux, qui est celui qui s'opère par la langue française, une monarchie de la langue française. Donc aujourd'hui, où la question du peuple est complètement éludée par les autorités politiques et dans la perception que les médias veulent se faire de la France, qui est juste un pays de consommateurs, le peuple est éliminé, la question de l'aristocratisme et de l'excellence est complètement éliminée dans une société où il ne suffit plus d'être le meilleur dans sa spécialité pour réussir, toutes ces composantes du mérite sont effacées, et la langue française est de plus en plus éliminée puisqu'elle ne correspond pas à la langue véhiculaire qui est nécessaire pour parler dans les journaux ou nourrir le discours politique. Donc je revendique cette erreur de sociologie. Oui.
Alors l'un de vos personnages a une très belle citation sur le foot. Il dit les hommes ayant perdu le paradis se mirent à courir après une balle.
Alors ça, c'est une belle citation. Les hommes ayant perdu le paradis se mirent à courir après une balle. C'est l'exergue du livre. C'est censé être de Blaise Pascal. Donc en fait, c'est une fausse citation que j'ai mis pour faire genre pour attirer les lecteurs super raffinés à mon livre. Mais à l'intérieur du livre, j'explique que évidemment c'est faux. Mais il faut attendre au moins 450 pages pour le savoir. Donc pendant 450 pages, j'ai pu paraître pour un mec super lettré.
Pour revenir un petit peu sur le football lisane, on reparlera beaucoup du langage après. Est-ce que... Zidane maintenant n'a plus trop d'actualité. Enfin, il n'est plus là, il n'est plus sur le terrain. Bon, maintenant, il a une actualité en tant que prof ou que coach, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que vous pensez que le monde du foot peut rester aussi palpitant qu'il l'était quand il était sur le terrain?
Non, mais je ne peux pas juger le foot, j'en ai aucune D'accord. capacité. Tout ce que je peux dire, c'est que le propos du livre, c'est que... En parlant de Zidane, je parle d'une sorte de roi, d'aristocrate des cités. J'explique aussi que les cités sont nées après-guerre dans toute la France, elles sont sorties comme des champignons, et qu'en superficie globale, ça représente quasiment une région entière, mais une région qui n'a pas de nom, qui n'a pas de langue, qui n'a pas de représentation politique ni artistique. C'est-à-dire qu'il y a un no man's land dans la France qui correspond à 10% de toutes les régions, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, ici, vous avez vos cités, il y a des cités partout. Si vous regroupez toutes ces cités de France, il y a une homogénéité d'habitat et de langage, mais ça représente une population qu'on voit aujourd'hui turbulente, etc., qui n'a pas de représentation. Et il y a une chose qui est très frappante, c'est que depuis 1950, depuis le début des constructions, il n'y a aucun artiste majeur qui est sorti des cités. Il n'y a pas un mec qui a réussi à faire un truc subjugant, ni en littérature, ni en cinéma, ni en sculpture, en rien. Donc, Donc j'aime bien le rap, il y a des choses que j'adore, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une seule personne qui a fait quelque chose d'énorme, c'est Zidane. Parce que Zidane, c'est un petit Kabyle de Marseille, et qui arrive, et à l'endroit où son père, sur le stade Saint-Denis, a été juste à 17 ans, un petit manœuvre arrivant de Kabylie et dormant dans les chantiers sans rien, 30 ans plus tard, enfin 20, 25 ans plus tard, sur ce même endroit, il donne une couronne à la France qui est une couronne de carton-pâte, parce que c'est juste une couronne sportive. Mais symboliquement, ça veut dire que c'est un gamin des cités qui donne à la France ce que la France n'a pas eu depuis presque un siècle. C'est-à-dire que la France perd tout depuis la guerre de 14. La France n'a rien gagné depuis la guerre de 14. Et là, sur le lieu de Saint-Denis, à 500 mètres de la basilique des Rois, il y a un jeune Kabyle qui a un comportement tout le temps aristocratique et avec une distinction et des vertus qu'on retrouve dans tous les textes anciens pour consacrer et décrire la noblesse, ce personnage-là donne un titre à la France. Donc, quelque part, Zidane n'est pas juste le héros de mon livre. Zidane est le héros, même s'il est critiqué, de toutes les cités de France. C'est le seul mec qui est sorti des cités pour opérer une jonction non violente avec la France. Il y a une tension énorme chez Zidane, parce qu'il y a un rapport conflictuel avec la France. Mais il a décidé de donner plus à la France qu'elle ne lui a donné. Et il y a une sorte de grandeur chez lui. Et aujourd'hui même, je suis allé à Madrid lui donner le livre. Là, on ne comprend pas ce qu'il fait. Il a 42 ans, il s'occupe d'une équipe de jeunes. Il a un schéma encore de monarchique dans sa tête, je vais vous le dire, mais c'est très très émouvant parce que ça ne s'arrête pas chez lui. Il a décidé de devenir entraîneur pour entraîner le Real de Madrid. S'il le fait bien, il a décidé de devenir entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France. C'est son obsession. Et son obsession, c'est d'arriver à remotiver tous ces petits mômes des cités qui composent l'équipe de France, qui ne comprennent rien à leur destin, parce qu'ils n'arrivent pas à raccorder leurs origines parentales avec leur vie en France, qui sont perdus, qui sont délocalisés, ils n'ont pas de territoire. Et ce qu'il avait fait en 2006, en envoûtant tous les joueurs un par un pour les amener à la finale, parce que la finale 2006, c'est la folie de Zidane. C'est Zidane qui a opéré une pression mystique nocturne, quotidienne sur tous les joueurs. Il a décidé de revenir et d'amener la France en finale et de faire gagner la France comme entraîneur pour effacer le coup de tête de 2006 et dire « je redonne le titre à la France ». C'est-à-dire que chez ce personnage-là qui est très riche, qui pourrait profiter de la vie et ne rien faire, là en ce moment, il est quasiment pas payé pour s'occuper des jeunes de Madrid parce qu'il a ce projet en tête. Donc la folie du livre, et là tout le monde me hurle dessus, c'est que je dis que dans les cités, il y a des mecs qui ont un comportement plus aristocratique que l'aristocratie et que la France est perdue politiquement et poétiquement, et que c'est sans doute, alors que toutes les élites se sont désistées, et dans le savoir, et dans le travail de la langue, et dans la politique, ça va être des mecs des cités qui vont peut-être devoir réinventer une langue pour rétablir une puissance de la langue française. Ça va être des mecs des cités de cette zone de non-droit qui vont devoir redonner un titre à la France comme Zidane. Et c'est une sorte d'espoir politique et poétique complètement utopique, mais je dis la vérité, c'est que ce que je ressens moi, c'est que rien n'advient depuis quelques années. Ce n'est pas un discours anti-élitiste que je fais, ce n'est pas du tout ça. C'est que je dis qu'il faut réouvrir la porte à un espoir de fusion, et que c'est souvent ceux qui n'ont rien du tout, qui sont prêts au sacrifice et quasiment au suicide, pour inventer quelque chose, qui font un don. Donc voilà, Zidane a fait un don à la France. Le fait que Zidane soit devenu un artiste de façon obsessionnelle, ça a grandi la France, ça a donné le titre à la France. Et donc, peut-être qu'un écrivain aussi, il ne vend rien, il ne touche pas le public de la télévision, mais à un moment, il fait un sacrifice pour la langue française, c'est le même processus. Et le bouquin, c'est cet emboîtement bizarre de la société du haut, de la société du bas, de la langue du haut et de la langue du bas, et la projection de l'écrivain sur ce personnage de « people », entre guillemets, qui est Zidane.
Et justement, donc Zidane est parti de rien, on va dire, pour arriver à un sommet. Est-ce que justement, actuellement ou quand il était encore un joueur, est-ce qu'il n'a pas créé du rêve pour pas mal de jeunes des cités?
Non, il a créé un grand rêve, parce qu'il faut pas oublier que le soir de la victoire, il y avait la projection de Zidane président sur l'Arc de Triomphe, qui est un truc complètement délirant. Mais il a créé du rêve, mais il y a des jeunes joueurs qui se réclament de lui, et qui sont devenus presque lui par la technique, comme Samir Nasri, que vous connaissez peut-être, qui était un petit génie des quartiers du Sud, comme Zidane, mais qui n'avait pas le mental aristocratique ni la puissance pour arriver à faire la synthèse en lui de tout son passé et de tout son présent. C'est-à-dire qu'il faut une énorme force. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Il y a un aspect héroïque chez Zidane. C'est quelqu'un qui arrive à encaisser des doses de violence énormes. Il en rend. Mais il a des projets qui le dépassent. Et le truc chez Zidane qui est très beau, c'est qu'il a été soumis à un surmoi énorme qui était celui de son père, le vieux Kabyle qui avait travaillé, qui s'était sacrifié à la France. Et Zidane a reproduit ce comportement-là. Il a toujours, toute sa vie, été vachement modeste. Il a une voix d'enfant. Et bon, le jour du coup de tête, on en reparlera, c'était autre chose. C'était l'explosion d'autre chose. Mais l'exemple, pour les citer, il ne vient de nulle part. C'est ça le souci. Et aujourd'hui, bon, c'est une aparté qui n'a aucun rapport avec la littérature, mais il y a une guerre civile qui se prépare et qui s'instrumentalise de tous bords. Quand on voit ce que font les gouvernements depuis 30 ans, de gauche comme de droite, c'est irréversible. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On va juste essayer de voir si on punit ou non les jeunes qui sont allés faire le djihad en Syrie ou ailleurs. Mais c'est déjà beaucoup trop tard. La question de la représentation et du sens de l'existence a été tellement perdue qu'on en est là, on est dans une situation irréversible. Moi, je suis en retard de 3 guerres sur cette histoire-là. Donc aujourd'hui, mon bouquin est quasiment du folklore sociologique. Je parle de choses dans les cités qui sont déjà trop vieilles. Non, non, c'est avec un personnage qui, lui, est fan de foot. Alors je dis, Ross fantasmagorise sur Ziz depuis des ans. Il s'inquiète des brises contraires et chagrine sitôt que l'espace entre eux s'est distendu. Je ne suis pas tant ému, foot m'en fout, ni tant dolent. Les jeux de gazon depuis toujours m'indiffèrent. Si Castin ne m'avait pas monté en songe et présenté Zidane comme l'artiste absolu, jamais je n'aurais dit oui. Roué Castin, il savait mon dégoût des engeances et des endémiques, ma crainte des stades populés de gens terribles et d'épouvantables. Il m'a chanté le foot comme un ballet et Zidane comme l'exception divine, son Nourieff. Il l'a comparé à Monte Thelonious, l'analogue Nijinsky, soliste en liquette Siemens, mieux qu'Ayrton Senna, comme si Zidane de Castellane avait fait mur à tout tard, devise sur tout Panthéon. Donc voilà, bon, c'est, j'ironise tout le temps sur le fait que je grandis trop Zidane. Et puis finalement, à la fin, c'est ce que je dis, je m'aperçois que lui, il a un projet encore supérieur à ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'il va encore revenir pour offrir un titre à la France.
Mais alors, dans ce cas, dans ce passage, est-ce qu'on peut vraiment considérer Zidane comme un artiste ?
Ah bah oui, alors là, en fait, c'est très simple. Il suffit de parler avec un autre footballeur ou avec des entraîneurs. Il y a des écoles de football, il y a des écoles de boxe. Donc, école de football, on vous apprend qu'avant de réceptionner une balle, il faut avoir telle position. Avant de lancer une balle, il faut avoir telle position. Zidane n'a obéi à aucune des règles enseignées dans aucune école de foot. C'est-à-dire que quand vous regardez Zidane, normalement, c'est à présenter aux jeunes footballeurs en disant « Tout ce que tu vois là, tu ne dois jamais le refaire ». Donc, une balle arrive de l'arrière, Zidane y plonge à droite et il la reprend sur l'extérieur du talon alors que le corps est déjà à 95% en chute libre sur le gazon. Mais il arrive à maîtriser l'angulation sur l'extérieur de la cheville. Bon, ça, c'est un truc qu'aucun entraîneur ne va pouvoir expliquer. Et Zidane, il n'avait pas le droit de jouer sur des vrais terrains de football. Donc, dans son enfance, il jouait sur un petit carré de ciment en bas de son HLM, mais uniquement pour être vu de sa mère qui cuisinait dans l'axe de la fenêtre de la cuisine. Donc, en fait, il était obligé de jouer dans un petit coin et il était très grand. Donc, lui, ça rigolait pas. Sa mère était kabyle. Dès qu'il sortait du truc, c'était la torgnole directe. Donc, en fait, il jouait dans ce coin-là. Et quand on est bloqué dans un coin, pour sortir le ballon, on est obligé de faire des trucs de magie. C'est ce qu'a vécu Maradona. Donc, le fait de jouer dans les cités ou sur des terrains vagues qui sont biscornus, ça oblige à avoir ce génie-là. Et après, Zidane, il a toujours voulu faire des trucs que personne ne faisait. Et c'était son obsession, c'était sa façon, c'était son orgueil secret, je ne sais pas comment dire ça. Et puis, il a fait des choses inutiles. Et puis, le soir où j'ai eu la chance de voir France-Brésil, quand je l'ai suivi, sans explication, ce match contre le Brésil, qui est la plus belle équipe du monde, Zidane a décidé, non pas de gagner le match, c'était évident dans sa tête, il a décidé de faire la suite pour les spectateurs et pour lui-même de tous les meilleurs gestes qu'il avait travaillé toute sa vie. Et on l'a vu, alors qu'on ne lui avait pas demandé, alors qu'il fallait faire un geste pour traverser la défense, il enchaînait 3 gestes en un et il a fait son récitatif, c'est-à-dire qu'il a montré tout son art. Et tous les joueurs avec qui vous parlez vous expliquent que personne ne savait ce qu'il allait faire. Et même à l'entraînement au Real de Madrid, Vous l'avez vu en match faire des doubles roulettes, c'est-à-dire que c'est déjà un système qui vous chahute l'organisme, hein, un double pivot sur soi-même à pleine vitesse. Mais à l'entraînement, Ronaldo et Beckham le suppliaient, disaient « Zizou, fais-nous une triple roulette ». Donc il arrivait à 40 à l'heure, il faisait des triples roulettes, quasiment le cerveau tourniquet jusqu'à tomber dans les pommes. Mais il est obsédé par ça. Donc c'est aussi toute une époque où Zidane, sans doute, il a raté, il n'a pas gagné des matchs, mais il voulait montrer des choses. Donc voilà, c'est toute la question de la vie humaine. Soit vous voulez uniquement avoir une efficacité, soit vous voulez laisser une trace. Et Zidane était obsédé par laisser une trace. Avant de faire le bouquin photo qu'on n'a pas fait, mais qu'on a commencé ensemble, il s'est fait filmer par deux grands réalisateurs plasticiens, Douglas Gordon et Parreno, pour faire un film plasticien, parce qu'il savait que ça allait durer. Et pour qu'il dure encore dans le temps, il avait prévu qu'on fasse une chose que je lui ai proposée qui le fascinait, c'est qu'on aille en studio avec une chambre géante montée sur rail et un mur de stroboscope pour découper tous ses gestes à 200 images secondes, comme au début du siècle, la fin du siècle dernier, avait fait Muybridge et Marais au début de la photographie. Et là, on allait faire des plaques sur verre qui étaient immuables et qui allaient assurer son éternité. Parce que l'obsession de Zidane, elle n'était pas celle d'un footballeur, c'était celle d'un artiste. Il voulait durer. Et il s'était dit une chose très simple, qu'est-ce qui reste de Pelé ? Pelé est le plus grand joueur du monde. Il ne reste que des vidéos pourries, complètement floues, dans les bacs à soldes. Et quand Pelé va mourir et tous les spectateurs qui l'ont vu vont décéder, il ne restera rien de la mémoire de Pelé. Johnny Westmuller, on s'en souvient parce qu'il a été Tarzan et qu'il a fait des films. Mais la vie sportive n'est rien si elle n'est pas éternisée. Alors, au début du sport, en Grèce, quand il y avait les premiers Jeux Olympiques, les artistes, comment dire, les sportifs savaient très bien que leur durée de vie était nulle parce qu'il n'y avait pas de médias. Donc, on avait cette situation extraordinaire où les plus grands chroniqueurs de l'époque, qui étaient des écrivains comme Pindare, racontaient exactement les Jeux. Et les sportifs de l'époque, qu'ils soient discobol ou lutteur, auraient donné toute leur fortune en vaches ou en coupes de bijoux pour que Pindare écrive deux lignes pour les sauver de l'oubli. Donc il y a dès le début eu, chez les sportifs, une obsession à faire des gestes inutiles et totalement fugitifs pour qu'ils soient éternisés par la plume du chroniqueur. Et cette obsession a été complètement perdue jusqu'à aujourd'hui où c'est carrément l'inverse, où en tant que photographe, vous arrivez pour voir un footballeur à la fin du match, tu dis « Attends, il faut que je t'assure ton éternité ». Le mec, il vous dégage et vous êtes quasiment obligé de payer, vous aujourd'hui, en tant qu'écrivain ou photographe, pour faire comprendre aux sportifs qu'il faut faire un geste, construire son œuvre, donner une trace de son œuvre dans un autre média pour qu'il survive. Mais Zidane, il avait compris ça. Et c'est ça qui est ultra émouvant et qui, moi, m'a toujours fasciné chez ce personnage qui n'a pas fait d'études, qui ne parle pas beaucoup, qu'on prend pour un idiot. Mais son obsession personnelle de durée, je trouve que c'est celle d'un artiste. Et c'est très émouvant. C'est très émouvant de voir un mec des cités qui décide de sacrifier pour la France et de laisser une trace, et pas juste de gagner de l'argent. Il a beaucoup d'argent, mais je le connais un peu, il n'en fait rien de spécial. Il s'est acheté une belle maison, il ne sort jamais, il passe sa journée à encore s'entraîner. C'est quelqu'un qui ne jouit pas. Il est là pour construire quelque chose. Donc ça, c'est un truc d'artiste.
Et donc ce livre que vous avez commencé à faire avec lui, il va exister ou...
C'est-à-dire quand il a fait le coup de tête, il faut être bien honnête, il a eu tellement honte de lui qu'il s'est caché 2 ans. Donc moi, j'avais toutes mes photos que j'ai laissées dans un coffre. J'ai attendu des nouvelles, j'en ai jamais eu. Et puis, on n'a jamais fait le livre. Et puis maintenant, maintenant je sens que ça a le travail qu'on essaye de faire quelque chose. Mais ce n'est plus tout le même contexte. Et puis moi, je considère que j'ai fait un livre visuel. C'est-à-dire que c'est peut-être une écriture qui paraît étrangement littéraire, mais c'est que des projections d'images. Le livre, il est vraiment construit comme une projection d'images verbales. Donc, puisque je dois faire voir au sens propre, le visage si beau et les gestes si beaux de Zidane dans le cerveau d'un aveugle.
Et imaginez un livre mêlant photographie et passage de votre texte, ça serait possible ?
C'est la catastrophe. Là. Mais non, c'est la catastrophe, parce que ça annule tout l'effort que je... Quand j'essaye de faire voir des images réelles, la seule personne qui n'a pas vu Zidane sur la Terre, il y a 7 millions de personnes qui ont toutes vu Zidane, vous êtes bloqué à une frontière au Kazakhstan ou au Congo, vous dites que vous êtes français, les gens vous disent Zidane. Personne ne regarde votre nom sur la carte. Vous parlez de Zidane, vous passez, il n'y a même pas besoin d'être fouillé. Donc en fait, Zidane, il a une existence pour tous les gens sur la Terre entière, sauf pour cet ami aveugle. Donc moi, il fallait que Zidane existe par la puissance du verbe, et j'en suis revenu à essayer de faire voir une vraie image par des mots, à ce qui a toujours été depuis toujours l'équation de la poésie, parce qu'à une époque antique où il n'y avait aucun moyen de fixation de l'image, toute la vérité visuelle venait de la puissance des mots. Donc les mots ne sont pas juste des légendes pour des images dans lesquelles on est inondé aujourd'hui. Les mots avaient une vérité visuelle autonome. Aujourd'hui, on ne voit le langage que comme inférieur à l'image dont on est submergé, ou que comme le parent pauvre qui n'est là que pour faire une petite légende à des images qui nous dominent. Non, moi j'ai remis l'image poétique et verbale en position primordiale par rapport à l'image médiatique. C'est quand même ça le projet du livre.
Et cet ami donc pour lequel vous avez essayé de décrire Zidane avec le plus, on va dire, enfin, j'ai le essayé, mieux possible, qui est quand même, enfin, qui s'appelle Wakami dans Chant Furieux, qui est un fin lettré qui cite Nerval, Mallarmé de tête. À quel point, c'est un point, c'est assez fascinant. Comment, enfin, lui qui est un homme poète, comment a-t-il trouvé de la beauté dans un sport aussi violent que le foot? Enfin, d'où est venu cet amour qu'il a?
C'est ce qu'il dit, en fait. Ça, c'est une donnée biographique que je raconte dans le livre, parce qu'il y a trois romans en un. Il y a un peu l'histoire de Zidane, l'histoire de ma vie dans les cités et le fait qu'on parlait tellement mal français, et puis l'histoire de l'aveugle qui, lui, exige ce roman né de l'exigence de l'aveugle. Et l'aveugle, il est assez sculptural, c'est un personnage réel qui est antillais, qui est extrêmement lettré, qui est beaucoup plus fort en littérature que moi, il a une culture bien supérieure. Et donc moi, je décris aussi ce fait que très vite, comme je ne m'intéresse pas au foot, j'essaye de lui raconter Zidane comme je pourrais raconter un copain dans un vestiaire, dans une salle de sport, très très vite. Mais quand j'ai raconté Zidane les premières fois à toute vitesse en disant « Ouais, je l'ai vu, tu ne peux pas savoir, il est super baraqué, il a des chaussures, il a 5 paires de chaussures, il a 2 Maserati et tout », lui, ben ça c'est le langage que vous avez dans les journaux pour parler de Zidane. Donc il m'a dit « Mais ça ne me fait voir rien du tout ». Ah bon? Donc après, j'ai remonté un peu le niveau en essayant de changer la position de mes adjectifs, choisir les choses. Ça ne marchait toujours pas. J'ai compris que quand on est aveugle, on devient, surtout quand on est très cultivé comme lui, on devient une sorte de juge du français. Donc en fait, le narrateur dans le livre, il vient des cités, il ne parle pas très bien, il est très complexé par rapport à cet aveugle qui lui demande de lui dire Zidane. Et il le corrige sans arrêt, où il dit « je n'ai pas vu ». Ce qui fait que dans le livre, je ne suis pas sûr de mon langage, parce que j'ai tout le temps l'aveugle qui me dit « ben non, là, j'ai rien vu, tu peux recommencer, on va reprendre tout à zéro, trouve d'autres phrases ». Donc en fait, il y a une sorte de vague, de marée, où je reviens pour réajuster le discours, et à la fin, on comprend que pour vraiment faire rentrer une image dans le cerveau d'un aveugle, il faut revenir à la vérité primitive de la langue, qui est celle de la formation des images poétiques. Donc le lien à la poésie, ce n'est pas juste une fioriture, dire « je fais de la poésie avec des jolies phrases ». Quand je parle de poésie, c'est la façon de chercher une adéquation réelle entre le geste et le mot, de chercher une adéquation réelle entre la couleur et la sonorité d'un adjectif. Donc il y a une construction qui est poétique parce qu'elle traite de la vérité matérielle du mot et de son équation en image. Ce n'est pas un truc compliqué, c'est un truc très simple qu'on a toujours vécu. Et dans notre enfance, quand il n'y avait pas encore la télévision pour certaines personnes, chacun en lisant Balzac ou Jack London avait une flopée d'images. Paris survit dans l'esprit de tout le monde parce que vous avez lu Balzac et qu'il a su former des images. Mais si aujourd'hui vous voulez vous faire une image de Paris en lisant tel écrivain, je ne vous cite même pas de nom, vous n'aurez aucune image de Paris. C'est-à-dire que personne aujourd'hui n'a réussi à faire une image du Paris réel parce que c'est un travail de fou. Et donc tout le monde s'appuie sur le fait qu'on a un corpus visuel et une quantité par milliard d'images dans la tête pour ne plus faire un travail littéraire de base qui est celui de la production des images. Donc ce que vous lisez le plus souvent maintenant, et c'est normal, ce sont des histoires résumées où ça va très très vite, où pour parler d'une veste, on ne sait pas si elle est avec brandebourg ou bouton en nacre ou bouton en cuir, il suffira de marquer Dolce Gabbana ou de mettre le nom de la marque et c'est réglé. Donc voilà, on s'est habitué à ça, ça nous fait marrer, parce que même moi, ça me fait toujours rire de voir quelqu'un qui moque le héros parce qu'il est habillé en vieux Zara. Alors on écrit vieux Zara, c'est super, ça nous fait marrer nous. Dans 40 ans, ça ne voudra rien dire, vieux Zara. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il va falloir décrire un polyamide usé, comme l'aurait fait Balzac, qui est un vrai vieux Zara. Là, c'est un boulot beaucoup plus dur pour l'écrivain. Mais on s'est habitué à ce que la littérature soit envahie par des images non littéraires qui sont comme des petits chiffres, des petites étiquettes. Et quand vous ne les avez pas, les étiquettes, l'aveugle, il n'a aucune étiquette. Il faut tout refaire à zéro. Et donc, je reviens à la littérature primitive, où on doit redécrire le monde comme si on ne savait rien du tout. Et c'est ça qui est très vertigineux.
Vous le lui avez lu, Champ Furieux ?
Et en fait, lui, il est conférencier. Comme c'est un bon conférencier, ses élèves lui ont offert un ordinateur. C'est assez génial qu'il lit. Donc, au fur et à mesure, je lui envoyais les passages. Et il se les faisait lire automatiquement par la machine. C'est une machine absolument géniale. Et donc, lui, il a lu le bouquin. Parfois, il m'a dit, là, je vois rien. C'est même pas la peine. Je sais pas ce que tu as fait de la semaine. Dis-moi si tu as fait autre chose que travailler. Donc, c'était une sorte de grand commandeur de la littérature. Et après, il me disait, non, là, c'est bien, tu as bien bossé. Et en fait, moi, je me posais pas de questions parce que je dis, si ça fait une image dans sa tête, c'est que j'ai bien bossé. Je me suis pas posé d'autres questions littéraires que celle-là. C'est un livre qui est lié à un personnage réel, c'est pas une fiction, mais c'est un vrai livre sur l'amitié, parce que moi j'avais jamais eu envie d'écrire sur Zidane. J'ai fait ça pour lui faire plaisir, parce que c'est un mec que j'estime et que j'aime beaucoup. Donc c'est un livre qui est une offrande aussi, en fait, quelque part, qui est dédié à ce personnage-là.
Vous l'avez écrit pour lui faire plaisir, mais quand même en travaillant énormément sur l'écriture. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des auteurs pour lesquels vous... Vous êtes inspiré
Il y a les auteurs qu'on aime tous, qu'on a toujours en tête. Moi, c'est vrai que ma ligne amoureuse, c'est plus Saint-Simon que Bec BD, c'est clair. Pourquoi Saint-Simon? Parce que je viens de les citer et que Saint-Simon, pour tout le monde, c'est soi-disant l'écrivain de la monarchie, le fou furieux qui veut rétablir la justice dans la noblesse française. Mais quand vous regardez vraiment Saint-Simon, le mec, il est complètement enragé. On ne sait même plus où commencent ou finissent les phrases. En 5 mots, il massacre un duc. En 10 lignes, il détruit une duchesse pour toute sa famille. Il ne reste plus rien. Donc, à part NTM ou des textes de Céline, je n'ai jamais lu des choses aussi délirantes que Saint-Simon. Donc, en lisant Saint-Simon, moi, j'ai retrouvé ma pulsation rythmique un peu saccadée et aboyée de mon enfance. Donc, j'ai une ligne effectivement assez évidente qui va... j'adore le XVIe siècle, Rabelais... Et puis les écrivains un peu virulents comme Agrippa d'Aubigné. Et puis c'est vrai qu'après Saint-Simon, j'adore. Et puis Céline. Et puis là, dans le livre, c'est vrai que quand la famille de Zidane, pour les adieux de Zidane, son dernier match sous le maillot du Real au stade Bernabéu en Espagne, et moi je ne savais pas pourquoi. J'avais jamais vu un match de ma vie et Zidane me dit « Bon, tu vas venir demain, c'est mon dernier match. » Et puis il me tend un billet comme ça. Et bon, moi, j'avais jamais vu un match de ma vie. Puis je me suis dit tout le temps, j'ai toujours peur d'être grugé. Et je lui ai dit, je serais bien placé. Il était déjà parti à 10 mètres. Puis il s'est retourné comme ça, il m'a regardé. Mais comme Clint Eastwood, il m'a dit, tu seras avec ma mère. Et bon, là, j'ai compris que j'avais pas été très fin. Et le lendemain, c'est même pas avec la mère avec qui j'étais pour ses adieux. Il avait fait venir toute la famille, c'est-à-dire ils sont arrivés, mais comme dans un tableau de Velázquez ou les tableaux de Goya, ou dans les descriptions de la cour d'Espagne par Saint-Simon, j'étais en bas des gradins, je m'étais bien habillé pour me rattraper ma mauvaise blague, là j'étais super respectueux, et j'ai vu arriver d'abord les cousines, les petits cousins, comme les Ménines dans Velázquez, par des petites nuées, ils arrivaient de Kabylie, ils arrivaient de Narbonne, de Marseille, ils s'asseyaient, et puis après les grands frères, les grandes sœurs, et ça ne finissait pas. Et c'est toute la famille de Zidane. Mais c'était un truc incroyablement émouvant pour son dernier match. C'était l'aspect dynastique. La mère est arrivée comme une vieille Espagnole, tout en mantille, des dentelles noires de partout, très belle, très petite, mais très très belle. Et à la fin, au-dessus de tout ça, le père, qui lui, quelle que soit la fortune de son fils, ne s'est jamais acheté un costard autre que le costard qu'on connaît tous aux travailleurs immigrés, où le pantalon n'est pas le même que le costard, et où le costard est en taille XL avec les manches trop grandes. Et il était là, avec sa petite moustache, ses lunettes, complètement perdu, et il est venu s'asseoir. Et là, ça a été un moment extraordinaire, quoi. Et ils étaient tous là. Et Zidane, je croyais que moi, je faisais un livre sur Zidane. Je me disais, ah ouais, c'est toi l'artiste, tu vas faire des belles photos. Non, le livre, tout ce que j'ai fait comme photo, c'est des photos que Zidane avait décidées. C'est ça l'aspect artistique aussi. C'est que j'ai compris à la fin... que Zidane me téléguidait et me faisait faire toutes les photos qu'il attendait. J'étais le seul avec la famille. C'est la première fois que la famille était réunie. Et quand, au début du match, les photographes officiels ont le droit de venir, ils étaient à 400 au milieu du stade avec des téléobjectifs, mais ça a duré une minute. Dès qu'ils ont été dispersés, j'étais seul avec sa famille. Et il savait ce qui allait se passer. C'est qu'il avait décidé de marquer pour le dernier match, et sa famille, ils sont tous tombés en larmes. Et j'ai fait le mémorial de ce truc-là. Et ces photos-là, quand je les ai revues, il les veut toujours. Et en fait, toutes les photos ont été décidées par lui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très émouvant. C'est comment quelqu'un maîtrise son image, maîtrise ses paroles et surtout fait quelque chose de beaucoup plus dur, décide de maîtriser sa sortie. Ça, c'est quelque chose d'inouï, parce que ce que Zidane a fait, décider qu'il allait arriver en finale, il n'avait aucune chance d'y arriver en finale, c'était impossible, il avait une équipe de nuls, lui-même il était blessé. Donc ça a été un effort mental et un effort d'effervescence, de joie, de frénésie, d'autopersuasion, d'aimant. Donc la question d'un héros qui décide les choses comme ça, on revient à une sorte de héros antique. Les gens me disent, il y a des gens un peu qui m'ont agressé dans des lectures comme ça en me disant « Ouais, pour moi Zidane c'est juste un mec qui prend du blé, il s'en fout de tout, il fait des pubs atroces, etc. » Donc oui, Zidane il est pris dans la vulgarité du temps, et comme nous tous, si on a un bon petit business à régler vite fait, on va le faire. Moi si je peux faire une pub pour Pepsi Cola et qui va me rapporter de poids à écrire pendant 8 ans, je vais peut-être la faire. Donc je ne jette pas la pierre à Zidane, parce que Zidane se rachète tellement en faisant ces choses-là, que c'est un personnage étrange, qui est à la fois dans la vulgarité du temps et dans la grandeur de tous les autres temps qui ont fait la France.
Et ce dernier match, vous l'avez aimé ?
Alors la Coupe du Monde, la finale, comme on était persuadé qu'il n'allait jamais arriver là, les billets étaient à peu près à 2 000 €. Donc c'est le seul match que je n'ai pas vu, c'est la finale.
Ouais. Dommage. Je vais vous laisser lire un petit passage que vous avez sélectionné.
Donc voilà, c'est juste le début du livre, je raconte tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'écrire sur Zidane. Et puis il y a cet ami antillais qui me convoque chez lui à Paris, près de la gare du Nord. Et bon, moi je vais chez lui, je suis un peu ému. Et puis je suis surtout ému parce que j'ai vécu dans les cités du Nord de Paris, à Sarcelles, près de Saint-Denis justement. C'est pour ça que c'est important Saint-Denis pour moi. Et dans le livre, j'explique comment, enfant, on est rentré dans la basilique Saint-Denis de nuit. C'est des trucs vrais. C'est-à-dire que même nous, enfants, on était attirés par la basilique. On ne comprenait rien à la royauté. Mais c'était un truc fascinant pour nous. Et donc, quand je passe devant la gare du Nord pour aller chez l'aveugle, commencer à essayer de faire ce récit qui m'ennuie, je me prépare déjà à raconter le récit dans une langue la plus propre possible. Et là, passant dans la gare du Nord, j'ai un flashback terrible. Je nous revois sortir avec tous mes potes de la cité. Toujours le ballon au pied, j'aimais pas le foot, mais on était obligé de jouer au foot. Et quand on arrivait de la cité en train, on sortait comme des rats, avec un petit ballon dans les pattes, et on ne regardait même pas la ville, on n'osait pas regarder la ville qui nous était interdite, qui était trop belle. On faufilait, là, dans ce cas-là, ce jour-là, ça, c'est le truc qui m'est revenu, on allait acheter des crampons pour un gars de la cité qui avait été pris professionnel au Werder de Brême. Et on passait tous comme des petits rats, des mulots. Et quand j'ai ce souvenir au moment où j'ai écrit le livre, eh bien le langage de mon livre commence à aller de plus en plus mal, c'est-à-dire que je n'arrive plus à écrire comme je suis adulte, où j'ai essayé toute ma vie de ne pas parler la langue des cités. D'un seul coup, me revient la façon dont on parlait. Et quand vous voyez des mômes des cités à Bordeaux, je ne sais pas si c'est comme à Paris, mais à Paris, vous prenez le train, vous croisez des mômes des cités, c'est l'explosion délirante. On voit bien qu'on ne parle pas la même langue. Hein. Et nous, quand on arrivait dans Paris, les gens, déjà à l'époque, nous regardaient comme des extraterrestres. Et donc, ça donne ça. On était trois. Donc, il y a Sidi B, celui qui est passé professionnel. Notre cavale, balle au pied, s'accompagnait d'étranges syllabies et de sons heurtants. Nous étions bilingues et parlions à fol débit. La ville attrapait nos mots fautifs passés au rabot. Elle engloutissait magnanime nos langues reptiliennes. Nous jetions aux passants des insultes sorties d'un pistolet à eau, des giclées sans grammaire, baves en suspension. Sidi B le héros et ses trois écuyers, bilingues nous étions, bifides comme les varans, mouvant de trottoir vers autre, gauche vers droit, parlant et dribblant à touche sèche, sans espoir de suite ni de consécution, parlant français parfois, jargon béton toujours. Nous portions la victoire dans les yeux et nous moquions de mal dire. Je garde ce droit monarchique d'écrire salopement et nargué. En ces jours, J'étais bon chiot et parlais le dialecte impec dès la sortie de gare. Je faisais traducteur et parlementais seul pour quatre, aux douanes nombreuses alors à nous piqueter, gendarmes, concierges et même les contrôleurs. Les clochards poètes nous reprenaient depuis le banc et nous glaçaient de quolibets. Je replaçais les verbes en entier et les relatives, je remettais le bouchon en bout de pistolet. La ville était suie et houille, traversée de parlures valoisiennes, valoises à tourelles et tournures à Villon. Les populaires tenaient leur vocabulaire d'Emagenta et Dunkerque, à morguer nos proses crevées de bulles et vides comme paix. Taxis et kiosquiers sur la pente d'Abbeville, crieurs et vendeurs en blouse nylon, vélocistes à argot et boyaux de soie appendus, ils ont disparu. Qui luttaient contre le français pâle et les leucos d'académie, qui luttaient pour complaire à l'usage et nous éduquer, nous, zoniers indignes des sciences prolétaires, qui luttaient contre nos phrasules syntaxiées comme des rots. Nous nous laissions caloter de loin à parler comme des salauds. Finioul se retournait hilar en titubant et manquait de crouler. La ville est devenue charbon et haute, mais limpide à parler et de franche gorgée, elle est livide maintenant et n'a plus les mots pour former le puissant éloge que mérite sa beauté. Paris est devenue ma ville, je suis entré dans son sentiment, j'ai le droit de juger. Bon, voilà.
Merci. Donc ce premier roman, Chant furieux, c'est le début
c'est le début d'une trilogie. Il y a deux livres qui vont suivre, qui sont une sorte de suite picaresque, parce que je raconte mon histoire, c'est le même narrateur, et c'est une sorte d'histoire drôlatique de l'effondrement de la langue française qu'on constate tous. Sauf que moi, au lieu de juger cet effondrement de haut, comme ferait Finkielkraut ou Richard Millet, je considère que je suis un fautif, puisque c'est nous qui avons saccagé la langue. Je dis que si la langue est devenue aussi basse, c'est de notre faute. Et donc, la trilogie s'efforce d'essayer de rattraper le truc de façon drôle. Mais donc, je vais essayer de faire un... Au lieu de traiter le sujet de haut, qui est un sujet capital, l'effondrement de la langue, c'est quand même un truc drôle et vital. Mais donc, je le traite de façon picaresque, à travers l'histoire d'un personnage qui change de milieu, qui part des cités, qui va vers les classes préparatoires, dans les lettres, qui fait des lettres supérieures, qui traverse toutes les classes sociales, comme en tous les romans picaresques depuis le 15e siècle. Et finalement, j'ai encore du boulot. Mais à la fin, je veux essayer de recréer une petite langue qui puisse ressouder les parties de la France qui sont en guerre civile. Parce que, quelque part, je supporte absolument pas les mecs des cités qui ont décidé de ne parler que comme des dégueulasses et de chier sur la France pour un oui, pour un non. C'est mes frères, quelque part. Mais moi, j'ai jamais accepté ça. Je voyais bien qu'on parlait pas la bonne langue, mais Zidane était comme moi. Il a fallu qu'on soit bilingue pour survivre. Et je supporte pas cet abandon que font les mecs du bas qui décident de parler une langue que personne ne comprend. Mais je déteste aussi encore plus l'espèce de surplomb que peuvent avoir des mecs très estimables comme Finkielkraut, qui sont des vrais amoureux de la langue, mais qui considèrent qu'il y a une zone morte où la langue est morte à jamais. Et bon, bah, manque de peau, il ne jure que par Bossuet et Saint-Simon. Moi, je suis un grand lecteur de Saint-Simon et je viens des cités. Donc évidemment, ça, on n'arrive pas à se croiser. Je voudrais pouvoir en parler avec lui, mais je fais contre-exemple. On ne peut pas en parler, c'est impossible. Il flippe trop, là. C'est terminé. Sa démonstration ne peut plus tenir. Donc en fait, je veux rejoindre, essayer d'apaiser ces deux groupes. Les traditionnalistes violents, Finkielkraut, les Zemmour, tout ça, qui sont des mecs qui racialisent le débat, et aussi les mecs en bas qui ont décidé qu'ils allaient cracher à la gueule de tout le monde tout le temps. Donc c'est évident, je n'en ai parlé avec Zidane, on aurait pu nous aussi cracher à la gueule de tout le monde sans arrêt. Et pourquoi on se prend d'amour pour un pays et pour une langue à un moment? Pourquoi Zidane est tombé amoureux de la France? Plus que de la langue française. Moi, je suis tombé amoureux de la langue française parce que j'étais quasiment un immigré de l'intérieur. Donc, à un moment, pourquoi on décide d'aller vers l'autre et de réopérer une fusion politique entre deux parties de la France disjointes? Ça, c'est une question sans réponse, mais bon, voilà.
Non, mais on a hâte de lire vos prochaines productions.
Surtout à définir, moi.
Oui, j'imagine. Et de vous retrouver aussi. Ouais. Merci de m'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à vous tous.